Chemin de FC, portrait d'entrepreneur. Ce podcast vous est proposé par l'Institut européen de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Le texte à l'écoute ici est extrait d'un livre en devenir qui cherche à mettre en mots l'expérience humaine, individuelle et professionnelle vécue par les entrepreneurs qui s'engagent dans le FC. Cette initiative est menée avec le soutien de la région des Hauts-de-France, en coopération avec le laboratoire Athémis et le club Noé. Elle a pour but de réincarner un mouvement que tous ceux y ayant participé qualifient de riche et profond, mais sur lequel tous peinent à mettre des mots. Thomas Demoulin, écrivain et poète, est chargé de l'écriture, du travail d'information, d'enquête, de questionnement que cela suppose. Romain Demissy, intervenant chercheur, économiste, est chargé de la coordination de l'ouvrage en appui à la compréhension des enjeux. Ce texte est issu d'une série d'entretiens entre Thomas Demoulin et Julien Dacosta. Nous les remercions d'avoir accepté de les partager avec nous en amont du livre, alors que le travail d'élaboration et d'écriture est en cours. Il a été mis en voix par Sarah Ellie et Aurélien Lornier de la Compagnie du Grain de Sel.
La zone industrielle est silencieuse. Notre voiture est seule à rouler dans les rues de Capécure. Mais où est la mère ? Et Julien Dacosta hésite. Il a rendez-vous pour déposer son nouveau trésor, un livre illustré sur un fameux fromage. Mais l'adresse est un peu cachée. Les bâtiments se ressemblent. Trouver le bon numéro prend donc un peu de temps. Mais où est la mère ?
Tu as vu là-bas ? On est passé devant la Continental Nutrition. Du temps de mon père, on y allait en camion 2 ou 3 fois par jour. Ils avaient tout le temps des ajustements de production, il leur fallait tout le temps beaucoup d'étiquettes. On avait aussi comme clients Tesco, Bonduelle, Comté, ah oui, pour les fonds de boîtes de crayons de couleur. Après, assez vite, il y a eu des délocalisations. Et puis la Continental a déposé le bilan. On n'était pas prêts. On n'a pas pu se relever. Enfin, on a quand même fait un plan de continuation, mais en se concentrant exclusivement sur l'imprimerie de départ. On s'est séparé d'une petite imprimerie numérique que mon père avait pu racheter. Ça a duré 2 ans comme ça. Je me souviens qu'on a travaillé vraiment très dur. 1 an et demi, 2 ans, c'était du matin au soir, le samedi et le dimanche, la nuit on tournait aussi. C'était long. On a dû licencier des gens, alors on prenait tout, on faisait tout.
Nous quittons la nationale et rejoignons maintenant le lacis des départementales.
Un ami a comparé ça à l'effet du lapin dans les phares. La stupeur mortelle dans les yeux, brillant dans la nuit. Faut s'imaginer en plus que non seulement tu travailles beaucoup, mais que comme on est en sous-effectif et qu'on a la pression, il y a des retards de production, des difficultés d'achat, des tensions de trésorerie, les clients qui sont pas forcément contents. On s'use très très vite. Toute la famille se retrouve dans une situation un peu délicate.
Tu es tout jeune à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on se dit quand on commence comme ça ?
Je me souviens personnellement m'être dit que c'était trop lourd. Quelque chose de complètement difficile et brutal. On est dans un moment, c'est long, ça a duré 2 ans, où on travaille beaucoup pour un résultat relativement peu satisfaisant et au bout du compte, tu perds de l'argent. C'est dingue. La fin d'une industrie, à mon sens, ça n'a ni queue ni tête. Mon frère, ma sœur, mon père, on a vécu dans notre chair la mort d'une industrie classique. On sait ce que c'est qu'un outil industriel qui broie, qui te prend tout ce que tu as. Donc non, j'ai pas pris la relève de ça. Je peux pas te dire autre chose.
Quelques instants plus tard, nous arrivons face à une variété de parallélépipèdes typiques des zones d'activité dites légères. Pourtant, c'est dans une masse que nous entrons. Outils, installations diverses, objets hétéroclites y composent tout un univers de travail. Devant l'entrée, à gauche, en entrant, des étagères en métal accueillent et classent les différents papiers. Puis, face à nous, ne laissant que quelques passages aux visiteurs, des palettes se déploient en éventail jusqu'à des piles de carton, sur la droite, remplies de documents prêts à voyager. Après cette interface, coordonnée plutôt que juxtaposée, mais selon une perspective qui m'échappe, règnent les machines. Imprimantes mastodontes, machines à massicoter, coller, façonner, replier, pelliculer, que sais-je encore. Et dans quel sens ça va? Et sans compter, entre les murs, les belles d'antan, allégories emblématiques. L'original Heidelberg, avec son noir et ses chromes patinés. La Bardolet catalane, surréaliste et bleue, érigée comme un totem incompréhensible. Ça et là, des ordinateurs posés sur des bureaux relaient les commandes. Et entre tout ça, par-dessus tout ça, Stéphane Dacosta, le frère de Julien, s'active, déjà à l'œuvre.
Je vais faire un peu de bruit. Et je dois aussi faire chauffer la relieuse d'eau carré-collée.
Au fond de l'atelier, des cloisons en bois ont été montées pour abriter le cœur administratif et stratégique de Flexink, la nouvelle imprimerie. En émerge aussitôt Amélie Harlet qui vient à la rencontre de mon guide. Pendant qu'il parle, je m'attarde devant la machine à coller, fascinée par les mouvements magmatiques de la colle soumise dans la cuve à une lente augmentation de la température. La voix de l'imprimeur interrompt soudain ma contemplation.
Technologiquement, on n'a pas de frein. On est capable de produire à l'unité, c'est magique. Et quand tu te questionnes, c'est pareil. Il n'y a pas de limite. C'est juste qu'il y a des tabous, des habitudes qui nous empêchent de tirer tout le parti de nos outils.
Un retard de la pensée sur la technique.
C'est plus compliqué. Si les habitudes sont là, il y a une raison. C'est un mythe de croire qu'une nouvelle technologie s'accompagne tout de suite de la bonne utilisation en claquant des doigts. Pour les gens de l'imprimerie, le « on a toujours fait comme ça » recouvre en fait des savoir-faire qui se transmettent. C'est le métier qui a appris ça. Changer les habitudes pour changer les habitudes, ça n'a pas immédiatement tant d'intérêt que ça. Faut du temps et des endroits pour expérimenter, pour ne pas se laisser enfermer, pour passer à travers certaines organisations de base et en faire émerger de nouvelles. Il faut des partenaires, des clients, et aussi des chercheurs pour imaginer ce qu'on peut devenir. On a annoncé plusieurs fois la mort de l'imprimerie. Et on aura toujours besoin du support papier. C'est intéressant le papier, c'est du temps off, en dehors des écrans.
Julien s'interrompt soudainement.
Pourquoi tu ris ?
J'ai ri ? Comment a-t-il pu voir ça ? Il m'avait pourtant semblé que mon enthousiasme était resté tout intérieur, inexprimé. Mais dois-je m'étonner qu'un imprimeur sache révéler les âmes ?
Mon frère et moi, avant d'acheter une machine, on demande toujours en combien de temps elle démarre ou elle a combien de tiroirs. Les commerciaux ne répondent pas à ces questions. Ils sont sur des imaginaires de croissance, de production, ils te vendent une cinquième couleur. Or nous, ce qu'on regarde, c'est comment s'ajuster sur des projets différents. Comment déterminer ce qu'on n'imprimera pas, ou pas tout de suite, en faisant tout pour que chaque document imprimé soit vraiment utile. Notre imprimé est au service d'un aspect plus immatériel. Ça n'est pas palpable, ça n'est pas strictement lié aux ressources naturelles qu'on va extraire de l'environnement. Du coup, à la limite, plus ça se partage, plus ça se multiplie. J'ai pas forcément les mots exacts pour te le dire, mais plus ça se multiplie, plus ça vit, enfin... Oui, c'est ça, c'est ça.
Comme quelques mots suffisent sur la feuille à faire respirer l'espace, quelque chose dans l'atelier s'ouvre et se libère.
Au commencement, les banques m'opposaient l'idée de croissance. On me disait que mon modèle n'était pas cohérent. Comment faire du chiffre si mon but est de faire économiser le plus de papier possible ? Comment je réduis la quantité de matière que je prélève ou rejette si, à la limite, tout le monde devient mon client ?
La décroissance ?
Il y a un mythe. À mon sens, on ne peut pas décorréler totalement la partie servicielle de la partie plus matérielle. Mais on mesure quoi, en fait ? Personnellement, j'aimerais bien qu'on s'intéresse plus à la confiance, par exemple. Avec cet élément, alors là, à mon avis, c'est quasiment croissance illimitée.
La transparence entre les caps, non loin, aimantée par la mer, s'offre alors à mes regards. Y a-t-il jamais des feuilles vraiment blanches ? La voix de Julien me tire une dernière fois de ma rêverie.
Il ne faudrait pas croire que je sais comment imprimer mieux. J'ai pas toujours la réponse. Ou alors, j'ai toujours pas la réponse.